Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molina.
Environ 40 000 déplacés qui fuient les combats dans les territoires de Rutshuru vivent dans des conditions humanitaires déplorables. Les députés provinciaux Emmanuel Mouosi, l'élu de Rutshuru qui livre l'information, lance un SOS à l'endroit des autorités et aux partenaires pour une assistance d'urgence. Construction de la route RDC Zambie longue de 270 km passe par Kasomeno, Kasenga et Tchaloué. La signature du contrat de concession a eu lieu hier entre le gouvernement congolais et l'entreprise privée GED Africa RDC. Dans ce journal, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, nous parlera de l'importance de cette route. Enfin, 6 bornes et fontaines d'eau potable ont été remis à la population des Kingi dans le territoire de Masisi. Pour en parler, nous recevons Vicar Batundi. Il est coordonnateur de l'ONG Foyer de Développement pour la promotion des peuples autochtones pygmées et personnes défavorisées. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au Nord Kivu, la situation humanitaire des déplacés qui fuient les affrontements qui opposent les 1-23 au FRDC dans le territoire de Rutshuru est dramatique. Ces déplacés estimés aujourd'hui à environ 40 000, selon un député provincial élu de Rutshuru, vivent dans des conditions déplorables sans aucune assistance humanitaire. Le député provincial Emmanuel Mouosi lance un SOS au gouvernement congolais ainsi qu'à ses partenaires humanitaires de venir urgemment en aide à ces déplacés dépourvus de tout, exposés à toutes sortes d'intempéries. Bernardine Diambou.
Pour cet élu de Rutshuru, le groupement de Jomba et ses environs connaissent plusieurs mouvements de déplacement des populations depuis 2 semaines. Ce sont les effets collatéraux des violences causées par le M23 qui attaquent l'armée congolaise. Emmanuel Mouosi décrit la situation.
Depuis le 27 jusqu'aujourd'hui le 9, la population est en train de subir une situation humanitaire dramatique. Partout où les populations ont fui, je parle de Rutshuru Centre, de la localité de Mungo. Il y a aussi le groupement de Bweza qui est sérieusement affecté et une part de Kisigari. Les populations se retrouvent à Rutshuru et en Tamugenga dans les écoles et dans les églises. Aucune assistance aujourd'hui n'a été donnée à cette population qui n'a rien.
Cet élu du peuple recommande au gouvernement congolais ainsi qu'à ses partenaires humanitaires de travailler urgemment sur la situation afin de permettre aux déplacés d'accéder à une assistance humanitaire avant de faciliter leur retour dans leur milieu d'origine. Sur les 8 villages que compte Jomba, il n'y a que 2 où les populations n'ont pas encore fui. Pour autant, les populations font des va-et-vient en raison de la situation sécuritaire volatile. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Signature hier samedi d'un contrat de concession de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué qui partira de la RDC jusqu'en Zambie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, représentant le gouvernement congolais, et le directeur financier de l'entreprise privée GED Africa RDC qui a gagné le marché de la construction de cette route longue de 270 km dont les travaux vont durer 3 ans. Témoin de l'événement, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Charles Médard Ilunga Mwamba. Au micro de Jean-Marc Matwaki, le ministre d'État Alexis Guissaro parle de l'importance de ces contrats. Suivez.
C'est un projet qui est vraiment la bienvenue pour la République démocratique du Congo parce qu'elle vient comme une solution au problème de congestion que nous connaissons dans la partie du Haut-Katanga. Comme vous savez, l'essentiel du trafic minier dans notre pays passe par la frontière de Kasumbalesa. Les opérateurs miniers connaissent des problèmes de congestionnement avec des files d'attente énormes. Et donc, en tant que gouvernement, nous réfléchissons sur des solutions par rapport à cette problématique. L'une des solutions, c'était d'ouvrir d'autres corridors, que ce soit un corridor qui va vers l'est, mais également vers la partie ouest, vers l'Angola. Mais ce projet-ci en particulier, c'est un projet que nous avons déjà mené à son terme, qui va permettre aux opérateurs de faire des économies en termes réellement de délai, en termes de longueur à accomplir pour atteindre le premier port en eau profonde qui est le port de Dar es Salaam. Et je voudrais dire que c'est un projet aussi intégrateur.
Et puis, vous le savez, Radio Kapi a entamé une série de reportages sur l'intégration de la RDC au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour ces deuxièmes reportages, Cynthia Machizi, quelles ont été les raisons qui ont poussé l'EAC à accélérer les processus d'adhésion de la RDC?
Eh bien, d'emblée, les mots du président ougandais Yoweri Museveni suffisent pour comprendre la grandeur de l'événement. 60 ans que j'attends ce moment, s'est-il exclamé, conscient sûrement des enjeux économiques qu'offre l'arrivée du géant francophone. Au-delà de ses vastes richesses en ressources minérales et autres, du poids de sa population, un marché d'environ 80 millions de consommateurs selon les experts, la RDC occupe une position géographique très stratégique. Située au cœur de l'Afrique, elle partage des frontières avec 5 des 7 États membres de l'EAC. Avec la libre circulation des biens et des personnes, les pays de l'Afrique de l'Est pourront facilement accéder à l'Ouest et à l'océan Atlantique en passant par la RDC. Cela demandera d'investir dans des infrastructures au vu de l'état actuel des routes et du chemin de fer congolais. Pour autant, bien que le traité ait été signé le 8 avril, peu des choses vont changer directement. Le Parlement congolais doit encore ratifier les lois et les règlements de l'EAC avant leur entrée en vigueur. L'intégration effective ou complète de la RDC au sein de l'EAC peut prendre des mois. Patience donc. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, connue davantage pour avoir inventé le premier robot roulage en République démocratique du Congo, l'ingénieure Thérèse Kirongozi plaide auprès des autorités compétentes de pouvoir délocaliser les panneaux de signalisation érigés depuis peu au rond-point Kabu, situé au croisement de boulevard Saint-de-Triomphal sur l'avenue Kassavubu et qui fonctionne concomitamment avec les robots roulage. Selon elle, on ne peut pas avoir deux technologies sur un même carrefour pour réguler la circulation routière. Elle qualifie l'implantation de ces panneaux de concurrence déloyale. Thérèse Kirongozi lance cet appel au micro de Marcel Ngombo.
En fait, nous déplorons la concurrence déloyale et les Kinois aussi ont constaté sur les carrefours du pont Gabi. À notre grande surprise, il y a une semaine, nous avons remarqué l'implantation dans le même carrefour d'un autre équipement de fil de signalisation modèle sud-africain. Dans un carrefour, on ne peut pas avoir deux technologies qui peuvent arriver à réguler la circulation route. Nous interpellons avec toute humilité Son Excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre national de transport, le ministre provincial de transport et la commission nationale de prévention routière de laisser le robot roulage intelligent de faire son travail parce qu'il le fait mieux. Mais il y a beaucoup des endroits qui cherchent de faire des signalisations dans la ville de Kinshasa qui peut aussi bien réguler, mais pas seulement là où il y a plus de 7 ans que nous avons déjà résolu le problème de ces carrefours et lui il vient encore surplanter sur le même carrefour. Vous êtes sur place, vous avez remarqué que même sous la pluie, les robots est en train de réguler la circulation.
Au nord Ubangi, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, SINIECO, menace de boycotter les activités de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires, édition 2022. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale des inspecteurs tenue ce samedi à Gbadolité, en solidarité avec leurs collègues de Kinshasa. Les participants qui ont évalué l'application de l'accord de Mbuela Lodge autour des 10 promesses faites à l'endroit de l'inspection générale de l'EPST. Précision du secrétaire provincial du SINIECO Nord Ubangi, Apollinaire Ndanga. Il a été joué au téléphone par Paul Richard Malengela.
Évaluation parce que tout était promis pour le mois d'avril. Mais le mois d'avril s'annonce, il n'y a aucun écho. On parle plutôt de MI, mais tout ce qu'on a demandé, rien n'est fait. C'est pour cela que nous sommes réunis pour évaluer. La position était que après évaluation, toutes les recommandations n'ont jamais été prises en compte. C'est-à-dire le paiement de primes, tout ce qu'on avait promis pour les frais de fonctionnement, les nouvelles unités de l'NP n'ont jamais été payées depuis le mois de décembre. C'est pour ça que nous avons dit que si rien n'est fait, dès ce mois d'avril, nous allons boycotter les TENAFEP, les tests du primaire.
L'examen d'État aussi?
À ce niveau-là, parce que TENAFEP tire les comptes des chefs de l'État, la gratuité. Nous avons pris tous les syndicats de la province. On a évalué avec eux. Parce que les recommandations, les syndicats avaient bougé le gouvernement. Qu'on fasse échouer cette gratuité-là comme ça, les chefs de l'État vont réagir.
Signalons que parmi les revendications des inspecteurs adressées au Premier ministre, il y a la signature de la grille barémique des primes, les primes d'itinérance, la réactivation des inspecteurs sans salaire depuis décembre 2021, ainsi que le paiement de tous les intervenants aux éditions des TENAFEP 2020 et 2021. Dans la ville de Boma au Congo central, quelques femmes et jeunes filles des différentes associations exigent au député national Adrien Poba, élu de cette entité, de demander pardon à la communauté féminine. Leur déclaration a été faite à l'issue d'un sit-in que ces femmes ont organisé hier samedi devant la mairie de Boma. Elles disent protester contre les propos dégradants, injurieux et humiliants que le député Adrien Poba a, selon elles, tenus à l'endroit de Madame Marie-Josée Nyongunswamy, maire de Boma, le 29 mars dernier, sur les antennes de sa chaîne de télévision. Dans leur mémorandum, ces femmes indiquent que les propos de ces députés nationaux méconnaissent tous les efforts consentis par la femme pour élever les défis quotidiens et violent les dispositions qui garantissent les droits des femmes. Wilhelmine Biyoko de l'Association des femmes médecins œuvrant au Congo a lu ces mémos. Elle est au micro de Nana Plurish Mambou.
Nous, femmes et jeunes filles, leaders de la ville de Boma, avons suivi avec indignation le propos tenu par l'honorable Adrien Poba, député national de notre ville, des propos de nature à vilipender et à viser la communauté féminine de Boma en général et à déshonorer et dénigrer notre consœur, Madame Marie-Josée Nyongunswamy, maire de la ville, représentante du chef de l'État. Ces propos méconnaissent tous les efforts consentis par la femme pour relever les défis quotidiens. Il constitue l'outrage à l'autorité et l'incitation à la haine. Et pourtant, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple reconnaît que la femme a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. En agissant ainsi, l'honorable Adrien Poba a violé la loi numéro 13/03 portant modalités d'application des droits de la femme et de la parité.
Contacté, l'élu de la ville de Boma, Adrien Poba, déplore de son côté ce qu'il qualifie d'instrumentalisation dont sont victimes ces groupes de femmes de Boma de la part de l'autorité urbaine. Ces derniers laissent entendre qu'il a beaucoup d'égards envers la femme. Pour Adrien Poba, son passage sur les ondes était pour dénoncer la gestion, selon lui, calamiteuse de Boma durant 13 ans par Madame le maire Marie-Josée Nyongunswamy. Autre nouvelle, au Nord Kivu, les responsables de différentes radios et télévisions de Butembo ont pris part ce samedi à une séance de renforcement des capacités en matière de gestion de la grille des programmes. Cette formation a été organisée par la sous-section locale de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Elle a été motivée par le constat selon lequel plusieurs médias locaux ne disposent pas de grilles des programmes qui répondent aux ententes de la société, indiquent les organisateurs. Sadiq Aboubakar.
Kid Mutuka est le président du collectif des médias de Butembo. Cette structure regroupe les responsables de tous les organes de presse de la place. D'après lui, la plupart des organes de presse locaux ne répondent pas aux attentes de la communauté.
Mon constat, il est amer. Quand vous écoutez telle ou telle autre radio, vous constatez qu'on crée une radio, mais la grille ne répond pas aux attentes de la population. Et ce sont souvent les auditeurs qui parfois nous interpellent. Quelqu'un viendra vous dire, comment se fait-il que telle radio ou telle autre radio diffuse des choses dont on n'a pas besoin.
Rachid Yamourika Songo est le président de la sous-section locale de l'UNPC. Selon lui, cette formation permettra aux médias locaux de mettre en place des programmes au service de la communauté.
Nous vivons dans une zone insécurisée. Lorsque vous avez une grille de programmes dans laquelle vous trouvez des émissions qui vont dans le sens d'appeler les gens à une citoyenneté responsable, c'est de cette manière-là que nous pensons qu'une radio sérieuse avec une grille de programmes sérieuse peut contribuer au changement positif de la société, au développement, même à la reconstruction.
La ville de Butembo compte environ 50 chaînes de radio et télévision, un nombre qui dépasse même la ville de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, affirme Rachid Yamourika Songo. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Et puis les obsèques en mémoire de 3 députés provinciaux du Kwilu ainsi que 6 autres compatriotes décédés par accident sur le pont Maindombe le 17 mars dernier sont prévus pour ce dimanche 10 avril. Les corps seront exposés à l'espace Vélodrome dans la commune de Kitambo, ici à Kinshasa. Et l'inhumation interviendra le même dimanche au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Paulin Kiyankai, précise que les veillées mortuaires doivent être organisées dans les familles respectives des illustres disparus la nuit de samedi. À cet effet, Radio Okapi a fait un tour dans quelques-unes de ces familles éprouvées afin de s'enquérir de l'ambiance qui y règne. Reportage Irène Bouma.
Parmi les familles éprouvées que nous avons visitées ce samedi, figure celle du défunt député provincial Augustin Ifumu, le chef coutumier dont le corps n'a pas été retrouvé dans la rivière, ni celui de son neveu, moins encore de son chauffeur, tous décédés par cet accident. Ici, l'ambiance est calme, sauf une douce musique qui résonne au rythme du deuil. Tous les membres de la famille se sont rendus à Kinshasa pour les obsèques, sauf deux qui sont restés pour la sécurité de la maison. Il s'agit du neveu et de la nièce du fait Ifumu que nous avons trouvé assis sur le pavement écoutant cette musique. Sur leur visage, l'on peut facilement lire la tristesse et voir les larmes dégringoler. Vincent Ifumu, âgé de 24 ans révolu, s'est exprimé en ces termes.
Perdre deux personnes, trois personnes à la fois, ça fait mal. Et papa n'a pas été vu, mais mon frère n'a pas été vu, n'a pas été retrouvé. C'est ce qui nous fait mal. Pourquoi ils ont trouvé pour les uns et pas pour les autres? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont mettre les cercueils vides ou comment. Nous allons mettre des bouquets où?
Signalons que parmi les corps qui vont être inhumés ce dimanche 10 avril 2022 à Kinshasa, il y a ceux des deux députés provinciaux, à savoir Évariste Ndjiba et René Nkoussou. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
4 semaines après son ouverture, le pré-dialogue du Doha se poursuit. Il y a 15 jours, le Qatar a accepté d'endosser le rôle de médiateur dans ces discussions, puis recueillir les conditions posées par toutes les parties. Depuis, le processus suit doucement son cours, mais sans avancée majeure. Et puis, au 46e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est 10 avril, le premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise en Ukraine, où il a rencontré le président Zelensky à Kiev, faisant de lui le premier leader du G7 a visité l'Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par la Russie le 24 février. Boris Johnson s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles anti-navires et appelle d'autres pays à suivre l'exemple du Royaume-Uni.
L'invité.
6 bornes fontaines d'eau potable ont été remis à la population de Kingi dans les territoires de Massissi. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Vicar Batundi. Il est coordonnateur de l'ONG Foyer de développement pour la promotion des peuples autochtones, pygmées et personnes défavorisées. Il s'entretient ici avec Mathieu Lunga Chamboui. Suivez.
Monsieur Vicar Batundi, bonjour.
Bonjour, monsieur Mathieu.
Vous venez de remettre officiellement les 6 bornes fontaines en faveur de la population autochtone pygmée et les communautés locales de Kingi dans les territoires de Massissi. Est-ce que vous êtes satisfait de la réalisation de cette activité?
Oui, c'est un ouf de soulagement pour nous parce que lorsque on procédait à l'évaluation des besoins, on avait constaté à Kingi la carence en eau potable qui poussait les femmes, les jeunes et les enfants à parcourir des longues distances dans la brousse pour aller chercher cette denrée rare. Et là, ils étaient exposés à beaucoup de risques, notamment de viol, parce qu'il y a eu des témoignages de certaines femmes qui ont dit que, en tout cas, cette fois-ci, elles ne seront plus exposées au viol. Elles étaient tentées de pénétrer dans le parc national de Virunga parce qu'ils allaient chercher l'eau à la lisière du parc. Mais aussi, les enfants développaient les maladies de la peau, notamment la gale, à cause de la non-application des règles d'hygiène. Et donc, pour nous, déjà comme population, les habitants de Kingi peuvent quitter leur maison et puiser l'eau juste à côté des habitants. En tout cas, ça nous réconforte parce que l'eau, c'est la vie. Quand on a l'eau, en tout cas, on peut facilement répondre à beaucoup d'autres besoins.
Vous parlez de 500 ménages qui peuvent exploiter ces 6 bornes fontaines. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour le reste des ménages? Puisque dans les Massissi, plusieurs endroits, on a encore carence d'eau potable.
Oui, même les collègues de la société civile ont présenté la même préoccupation en disant que le besoin est énorme dans les Massissi et c'est presque partout au Nord Kivu, Kawalikale, Nyiragong, on n'en parle même pas. Donc, mais nous, au niveau de FDAPI, devons ensemble évaluer les besoins et utiliser ces données pour la mobilisation des fonds afin que nous puissions aider la population à accéder facilement à l'eau potable.
Il semble que vous vous dirigez vers le peuple autochtone pygmée. Est-ce que le besoin que présente le pygmée peuvent être différents à ceux que présente la population locale à part le peuple autochtone?
Je ne pense pas en matière d'accès à l'eau potable, nous avons les mêmes besoins. Même si, jadis, les peuples autochtones pygmées avaient la facilité d'utiliser les racines pour extraire de l'eau, d'utiliser des sources dans la forêt. Mais actuellement, vous savez que c'est un peuple qui n'a plus accès à la forêt. D'ailleurs, pour votre information, le site de King, là où ils habitent maintenant, a été acheté par FDAPID avec l'appui du Secours Populaire Français. Et l'eau, nous venons d'approvisionner ce site en eau potable grâce à l'appui de IUCN dans le cadre du projet JELA Green Livelihood Alliance pour les moyens de substances vertes.
Qu'est-ce qu'il faut faire aussi rapidement pour que toute la population de ce côté puisse accéder aussi à l'eau potable?
Pour les 500 ménages, c'est une réponse. Il nous revient à nous en tant qu'organisation, mais surtout à l'État congolais, de copier ce modèle que vient de poser FDAPID, parce que nous venons en appui aux efforts du gouvernement congolais. Et c'est un exemple, parce qu'il y a d'autres organisations et même d'autres services étatiques qui croient que pour donner l'eau à la population, il faut avoir des millions. La réponse est NON à majuscule. Donc il est maintenant temps de faire la cartographie de toutes les cours d'eau. Comme ça, on a la possibilité de dire qu'on va utiliser tel cours d'eau pour desservir telle population en eau potable.
C'est une eau de gravitation?
Non, on n'a pas appliqué le système de forage. Il y avait déjà une autre organisation qui avait fait le captage, plus la construction d'un réservoir. Alors nous, on devait faire les raccordements d'eau pour les sites des pygmées. Pour que l'eau arrive dans les sites des pygmées, il fallait que toute la tuyauterie fonctionne. En tout cas, nous avons fait un grand travail pour faire en sorte que toutes les bornes fontaines soient alimentées. C'est une eau de qualité, une eau pure, potable, qui n'a même pas besoin de traitement.
Ça vous a coûté combien?
Le budget global, c'est 11 000, 13 dollars. La population de Kingi, parce qu'il y a un comité de gestion de l'eau, il faut veiller sur les ouvrages, parce que ça n'arrive pas des fois. Assurer la maintenance, assurer une gestion quotidienne pour que au moins chaque fois qu'il y a des petites pannes, il faut les réparer vite afin qu'on ne puisse plus revenir à la situation d'avant.
Monsieur Vicar Bartondi, je vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.